Vous écoutez Apéro Cigare,
le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
Cette émission est la dernière de la saison. Ben oui, déjà.
Yes, we can.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Jean, au secours!
Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission d'actualité où on en parle sans vous endormir. J'ai failli manquer mon introduction. Mais ça fait partie de l'émission, on est très, très authentique. Je suis avec Hélène Bernardo.
Allô?
Ça va?
Ben oui, écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était l'hiver, puis maintenant, c'est l'été.
Mais ça, c'est tellement une perspective québécoise. Deux semaines, il fait beau, deux semaines, il neige. Et c'est notre dernière de la saison.
Oui.
On a eu quand même 13 épisodes, donc c'est le 14e aujourd'hui. Très belle saison, je suis très, très content et je... Prends ce moment-là pour te remercier.
Oh.
Et remercier aussi Eric qui est derrière le micro et derrière la console. Parce que c'est vraiment une très, très belle collaboration.
Oui.
Je vous remercie vraiment pour votre travail. Et on a beaucoup de plaisir, de très beaux invités. Et on en a un dernier, justement, cette semaine.
Exact. Ben, merci à toi, Jeff, pour cette belle introduction. On a la chance d'être avec Normand Cornette, qui est professeur spécialiste en sciences des religions. Parmi plein d'autres choses, tel qu'on a pu le découvrir avant l'émission, mais on va en parler plus précisément au fil de l'émission. Merci, M. Cornette, d'être avec nous.
Un plaisir. Merci pour l'invitation.
Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va s'amuser à faire un petit tour du monde en parlant géopolitique, mais aussi religion, puis essayer de faire des liens entre les différentes régions du monde pour mieux comprendre... qu'est-ce qui se passe
d'un point
en
de
ce moment?
Idéologique aussi, d'un point
exact.
De vue, on est moins dans l'analyse géopolitique classique, on est un peu plus dans un horizon très humain.
Exact.
Ouais, ouais.
Avant de commencer, traditionnellement, on demande l'étoile et la brique de la semaine à nos invités. Donc, Monsieur Cornette, qu'est-ce qui, dans l'actualité récente, vous a fait du bien, vous a fait plaisir? Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui?
L'étoile, c'est la reconnaissance de l'État palestinien par trois pays européens, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne, qui montent la voie, surtout à l'Union européenne, qui est mitigée sur ces questions-là, pour des raisons historiques, dans le cas de l'Allemagne, qui a un engagement suite à l'Holocauste, mitigé du côté de la Grande-Bretagne, qui est à l'origine, n'est-ce pas, du mandat dans cette région. Donc, pour moi, j'espère de mon vivant voir la naissance de l'État palestinien. Je suis né en 1950, donc 2 ans après la création d'Israël. Ce conflit éternel jette l'ombre sur ma vie, sur mon existence.
Est-ce que c'est une surprise que l'Irlande, l'Espagne et la Norvège ?
La Norvège. La Norvège, pour des raisons bien compréhensible, il y a les accords Oslo. Donc, ce pays scandinave qui est à l'avant-garde, et cela de plusieurs façons, c'est un pays qui a des ressources pétrolières incroyables, mais au lieu que les grandes compagnies internationales, transnationales, pétrochimiques en profitent, eh bien, ils investissent dans l'éducation. Ils investissent dans les soins médicaux. Ils investissent dans les résidences pour les aînés. Or, ce modèle, cette reconnaissance miroite la mentalité norvégienne. Dans le cas de l'Irlande, ça se comprend très bien,
oui.
Avec l'histoire tragique. L'Angleterre, la Grande-Bretagne se servaient de l'Irlande comme... c'était comme... une bagatelle, et marcher dessus pendant des siècles. Et si vous connaissez l'histoire religieuse, entre autres, de l'Irlande, des massacres de la part des protestants anglais. Je pense à celui qui était chef pendant au XVIIe siècle, Oliver Cromwell, qui était chef d'État, qui avait décapité le roi Charles Ier. Eh bien, pour lui, les catholiques étaient démoniaques. C'était du diable, il fallait les tuer, les exterminer. Et c'est ce qu'il a fait. Il était aussi un général hors pair. C'est une des raisons qu'il a gagné cette guerre civile, qui est une guerre en fait religieuse, rappelons. Et dans le cas de l'Espagne, il faut comprendre que le gouvernement actuel, le Premier ministre, est socialiste avec une vision socio-démocrate qui veut dire que les valeurs, ce qu'on appelle en philosophie l'hiérarchie des valeurs, est bien différente que celle dont le capitalisme prime. Quand on pense au Premier ministre de la Grande-Bretagne qui vient d'annoncer des élections le 4 juillet prochain, c'est évident qu'il y a là les intérêts, la vente des armes. Donc, c'est bon d'avoir un pays hispanique, chef du monde hispanique en quelque sorte. C'est très important que l'Irlande ait l'audace. Parce qu'on parle en fait, l'Irlande et la Norvège, ce sont des petits pays. Et ce n'est pas pour rien qu'ils s'identifient avec les Palestiniens. Mmh. Est-ce que être plus grand, plus gros, est nécessairement la meilleure façon de s'organiser sur le plan politique, sur le plan social? Alors, je crois qu'il y a là un enjeu entre le macro et le micro, qui est très intéressant quand on regarde la géopolitique mondiale.
Puis, est-ce que, donc, trois petits pays, ou on pourrait dire trois pays qui n'ont peut-être pas nécessairement un rôle géopolitique majeur sur l'échiquier mondial en ce moment, est-ce que ça a vraiment un impact qui va être suffisant quand on regarde les États-Unis qui sont, encore une fois, les grands défendeurs d'Israël? On parle de la Grande-Bretagne, de la France également, qui ne se sont pas vraiment prononcés contre. Est-ce que ça peut faire pencher le poids dans la balance, en fait?
Mais en fait, on cherche des chefs qui vont montrer la voie de l'avenir. Il faut qu'il y ait des gens, voire des pays, qui sont prêts à aller contre-courant. Et en tant que spécialiste en sciences des religions, je pense à Mahatma Gandhi, qui a eu l'audace de rêver à l'indépendance de l'Inde, de l'Empire britannique, mais de rêver de l'Inde qui allait accepter toutes les religions. Or, il y en a beaucoup. Et étrangement, ce n'est pas un musulman qui a tué, qui a assassiné Mahatma Gandhi, c'était un hindou nationaliste extrémiste. Et quand on regarde la politique actuelle avec les élections en cours en Inde avec Modi, eh bien, c'est la renaissance du nationalisme hindou qui veut faire de cet énorme pays la plus grande démocratie sur la planète Terre, qui veut en faire le paradigme de l'hindouisme. Alors qu'il y a plus de 200 millions de musulmans, sans parler des bouddhistes et d'autres. Alors, je crois que quand on voit large, ça nous aide à mieux comprendre les enjeux de la géopolitique actuelle.
Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette belle étoile. Au contraire, un événement qui vous a peut-être fâché, contrarié, une actualité négative, mettons, votre brique de la semaine.
Alors, pour en parler, je vais d'abord enchaîner avec le nationalisme hindou de Modi, le Premier ministre, parce qu'il y a plusieurs nationalismes religieux en cours actuellement. Il y a le nationalisme islamique, Hamas, Jihad, l'État islamique. Il y a aussi le nationalisme juif des colons en Cisjordanie. Tant et aussi longtemps qu'on ne se rend pas compte de cette synergie entre la politique et la religion, on ne comprendra pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Et pour cette brique dont vous parlez, c'est de voir mes compatriotes aux États-Unis qui sont divisés, divorcés sur le plan idéologique, sur le plan politique, c'est-à-dire le parti républicain, le parti démocrate. Mais finalement, ces deux partis sont d'accord, on va poursuivre, on va sanctionner la Cour pénale internationale. Et les démocrates et les républicains sont prêts à sanctionner la Cour pénale internationale à cause des mandats d'arrêt de la part du procureur. Or, figurez-vous, on va criminaliser la Cour pénale aux États-Unis. C'est très fort.
Donc on criminalise ce qui est supposé être un organe pour de justice internationale. C'est un peu paradoxal quand même.
C'est très américain. Ça s'en va vers où, à votre avis? Quelles vont être les suites de cette histoire?
De la question de la Cour pénale internationale. Exact. En fait, on est là devant les changements dans l'ordre mondial. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la guerre froide, n'est-ce pas? C'était loin d'être idéal. Moi, je l'ai vécu dans les années 50. Le regard vers l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, et ne parlons même pas de l'Union soviétique ou le communisme et la Chine et le sud-est asiatique. Mais il y avait un équilibre, plus ou moins. Mais cet ordre, on dirait que ça ne marche plus. Va-t-on établir un équilibre et qui va l'assurer, cet équilibre-là? Donc, ce sont des questions que je me pose. Et d'autant plus, vous savez, au 19e siècle, au début du 20e siècle, on parlait de l'impérialisme. On n'en parle pas maintenant. Mais quand je regarde la Chine, la République populaire de la Chine actuelle, quand je regarde la Russie de Poutine, c'est tout comme l'impérialisme. Alors, y a-t-il là un renouveau, une renaissance de l'impérialisme avec des gouvernements encore plus autoritaires, sinon totalitaires, et dans le cas de la Chine, et dans le cas de la Russie? Le nouveau président de Taïwan vient de faire un discours. Eh bien, la Chine populaire vient de l'entourer d'avions chasseurs. C'est une menace à peine voilée. Alors vous mettez le couteau à la gorge d'une démocratie qui marche très, très bien.
Est-ce que l'ordre devient le désordre, finalement? On n'est plus dans un ordre mondial, mais un désordre mondial. Puis ça fait un parallèle, je pense, avec les sujets qu'on a sur le conflit Israël-Palestine. Mais l'ordre, donc la Pax Americana, sera on parle terminé, on est dans un ordre maintenant multipolaire où il y a une rivalité, un jeu d'échecs entre plusieurs puissances. Et on veut redéfinir peut-être la pensée mondiale qui était sur la démocratie, vers effectivement un autoritarisme, des gros États autoritaires. Est-ce que ce serait ça, en fait? On redéfinit ce qui était l'ordre mondial depuis...
Oui, j'ai un petit peu... Je ne peux pas m'empêcher de penser au film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain. Je le constate. Moi, je l'ai vécu dans les années 50, je l'ai vécu dans les années 60, je l'ai vécu dans les années 70. Donc, je suis témoin de ce qui se passe avec les États-Unis. J'y suis très souvent, d'ailleurs. J'ai passé 6 semaines, tout le mois de décembre, la première moitié de janvier, mes recherches sur les zionistes chrétiens. Ils ne sont pas juifs, mais ils sont zionistes et qui appuie à 300% Israël dans le conflit actuel. Sous un jour de science des religions, c'est absolument fascinant. Et ce sont des évangéliques. Gardons en tête que 80% des évangéliques blancs ont voté pour Donald Trump en 2016, dont j'avais prévu d'ailleurs 16 mois avant son élection, j'avais prévu et j'en faisais des entrevues à ce sujet. Et donc, quand je regarde ce qui se passe maintenant, l'évolution des États-Unis, je me pose beaucoup de questions. Mais aussi en tant qu'historien de formation, quoi qu'en histoire des sciences des religions, ça peut vous choquer, vous scandaliser même. La démocratie n'est pas la seule forme de gouvernance dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est même pas la seule forme qui a bien fonctionné, qui a bien marché. Et parfois, j'ai l'impression, et je le dis encore comme Américain, que la démocratie est devenue un produit à vendre des États-Unis au reste du monde. Au nom de la démocratie, on est en train d'avoir une des plus hautes croissances de l'industrie des armements pour libérer les autres.
C'est un complexe militaro-industriel où on vend notre idée pour ensuite avoir une influence directe.
Oui, et on convainc les gens, vous allez battre pour la démocratie. Mais quand vous êtes dans une démocratie foncièrement capitaliste, vous pouvez acheter les élections. Littéralement, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez, je vous donne un exemple, vous avez les deux sections, les deux divisions du Congrès des États-Unis, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants. Eh bien là, maintenant, pour gagner une élection, une seule, d'un représentant, on va investir 6-7 millions de dollars. Et il faut se faire réélire chaque 2 ans. Ce qui veut dire que vous devenez dépendant des bailleurs de fonds. Et qui sont les bailleurs de fonds? Hier, à Houston, Donald Trump, candidat républicain, c'était pas sur invitation seulement, avec tous les chefs des compagnies pétrochimiques américaines. Alors vous comprenez bien les enjeux. Et ce qui était très intéressant, lors de son mandat, suite à l'élection de 2016, au contraire de tous les autres présidents précédents, savez-vous où il a fait sa toute première visite à l'étranger, sur la scène internationale? L'Arabie Saoudite. Parce qu'il sait très bien que le trésor, les fonds inépuisables à sa disposition, si ce lobby le soutient.
C'est un autre jeu d'échecs domestique qui relie un jeu d'échecs international.
Exactement. Tout à fait. Et ça explique pourquoi. Et il est à l'origine de ce qu'on appelle les accords abrahamiques, c'est-à-dire entre Israël et des pays musulmans qui l'entourent, donc avec le Soudan, avec le Maroc. Quel était l'échange avec le Maroc? Parce que les États-Unis, sous Trump, poussaient beaucoup que le Maroc reconnaisse Israël. Eh bien, l'échange, c'est que nous, on va reconnaître que le Sahel appartient au Maroc. Donc on va tuer dans l'œuf le mouvement d'indépendance du Sahel. Et même on va ouvrir un consulat américain pour démontrer. Et ça donne une crédibilité au Maroc. Donc ils ont acheté l'accord abrahamique. Et ils ont fait avec... Et quel est l'enjeu maintenant entre le... Et d'ailleurs, Biden soutient à 100% les accords abrahamiques, et le prix pour l'enjeu, pour le conflit actuel, c'est de conclure une entente entre l'Arabie Saoudite et Israël par la médiation américaine. C'est ça le but stratégique.
C'est très intéressant de comprendre quel est le rôle des États-Unis dans cette région-là du monde. Pourquoi, comme Qui pense quoi là-dedans? Où est rendue l'Arabie Saoudite dans sa relation avec Israël, justement? Est-ce que la confrérie des pays musulmans existe encore? Est-ce que l'Iran qui vient mettre son nez là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'on voit dans l'opinion publique, c'est que c'est extrêmement divisé. Mais ce qu'on voit au niveau des gouvernements, c'est qu'il y a encore très, très peu de choses qui sont dites ou d'actions qui sont faites.
Mais on parlait là de la médiation américaine entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, depuis quelques années, il y a de plus en plus de rapprochements entre les deux pays. Donc, s'il y a un accord abrahamique, et qu'est-ce que ça veut dire, un accord abrahamique? Les religions abrahamiques sont les religions monothéistes mondiales. D'abord le judaïsme, ensuite le christianisme et l'islam. Donc, c'est ce qu'on appelle en science des religions les religions abrahamiques, d'où l'accord, les accords abrahamiques. Et pour ceux et celles qui pensent qu'on peut évacuer là les religions de l'échiquier politique, il faut vraiment y réfléchir à quel point là les religions demeurent un principe opérateur de la politique en 2024. Et c'était ça l'illusion de l'âge des Lumières, donc du 18e siècle, Diderot, Voltaire, Rousseau, Condorcet et d'autres, dans leur esprit, qui était un esprit étroitement occidental, je tiens à souligner, la religion allait naturellement disparaître et ça sera le règne de la raison, de la logique. Or, c'était peut-être vrai dans un certain cas dans l'Occident, mais dans le reste du monde, la religion demeure quelque chose qui est très cher et qui est même qui sert de façon dynamique dans l'organisation de la société, de la gouvernance et de la communauté, aussi bien locale qu'à l'échelle nationale.
Ça va peut-être paraître, parce que je suis en train de refaire des recherches justement là-dessus, donc ça va me parler en davantage, mais pourquoi l'Occident s'est sécularisé alors que d'autres régions du monde ne l'ont pas fait? Est-ce qu'il y a des conditions, des facteurs qui s'est créé? Pourquoi l'Occident et en particulier?
Quelle belle question!
On a juste 50 minutes.
Oui. En fait, l'âge des Lumières du 18e siècle est la succession des guerres de religion en Europe. S'il n'y avait pas la religion, si on fonctionnait uniquement avec la science, avec la raison, avec la logique, eh bien là, finalement, les êtres humains pourraient réaliser l'utopie dont ils parlent depuis le jardin d'Éden. C'était la religion le problème à leurs yeux, parce qu'il y avait les huguenots et les catholiques. Et dans tout l'Occident, c'était en guerre. On parlait tout à l'heure de Oliver Cromwell. Alors, pour Oliver Cromwell, le roi Charles Ier, qui était Stuart, le fondateur de la dynastie Stuart, il n'était pas assez protestant. Oliver Cromwell était un protestant évangélique radical. Et on ne peut point comprendre ce qui se passe dans la politique américaine si on ne se rend pas compte qu'aux yeux des évangéliques, aux yeux des protestants radicaux, il ne suffit pas de diffuser l'évangile, il faut que la Bible devienne la loi du pays. D'où l'annulation du droit à l'avortement. Et Trump qui a placé, peu importe ses croyances, qui a placé 3 juges sur la Cour suprême. Moi-même, j'ai eu le privilège, quand il y avait ce jugement Roe versus Wade qui a assuré l'accès, le droit à l'avortement, mais j'ai eu le privilège, lors de la collation des grades à l'Université de Californie à Berkeley, celui qui m'a remis mon diplôme entre mes mains était nul autre que le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, le Earl Warren. Alors, ce sont des choses que j'ai vécues qui me restent parce que c'était humain, c'était personnel, c'était individuel. Et quand je regarde l'évolution juridique sur le plan du droit et des lois aux États-Unis, on passe des lois qui sont à la base basées sur des convictions religieuses. Alors la religion est un enjeu primordial chez nos voisins, les Américains.
Ce mouvement-là, en fait, s'est jamais éteint parce qu'il y a peut-être beaucoup de persécutés religieux qui ont quitté, en fait, l'Angleterre vers les États-Unis et qui ont... Donc, les Mormons, d'autres ouais. groupes qui ont reperpétué un mouvement, en fait, de croyances religieuses, on pourrait dire, très rigoristes. Et ce mouvement-là est encore très présent aux États-Unis, c'est ce que je comprends.
Oui, c'est-à-dire, ceux qui ont quitté l'Angleterre se percevaient comme persécutés des réfugiés religieux. Donc, ils sont allés aux États-Unis pour construire, établir la Nouvelle Jérusalem. C'est très, très intéressant. Et un petit correctif, les saints de Jésus-Christ des derniers jours, le titre officiel des Mormons, c'est une religion qui est née aux États-Unis pendant le 19e siècle. Et donc, qu'est-ce qui est unique dans les phénomènes religieux aux États-Unis? C'est cette idée de l'exceptionnalisme. Nous, on fait exception à la règle. On est les élus de Dieu. Nous, c'est pour fonder la cité de Dieu. Et c'est la raison que les évangéliques blancs s'identifient tant avec Israël, avec le peuple juif, le peuple élu, le peuple divin, le peuple de Dieu. J'étais dans là où je fais des recherches, j'étais à Bakersfield, dans le sud de la Californie, dans une grande église des zionistes chrétiens. Et il faut comprendre leur... parce qu'ils sont persécutés ou ils se perçoivent comme ils doivent être des guerriers de Dieu, le pasteur de l'église a un garde-corps armé. Et au deuxième étage de l'église, vous avez quatre hommes avec des mitraillettes. Parce que pour eux, il faut être prêt à défendre la vérité divine et le royaume de Dieu qu'on veut établir. Alors, cette synergie entre l'industrie des armes et la religion. Et on le voit également chez les colons juifs en Cisjordanie.
C'est incroyable parce que je suis française, donc j'ai été élevée avec l'idée que la République avait un statut d'exception et que la religion appartenait à l'intime et que la politique n'était pas dictée par la religion. Évidemment, c'est une autre forme de croyance qui se base aussi sur ce qu'on peut voir dans d'autres religions. Mais c'est vraiment fascinant de voir à quel point la religion peut guider des décisions ou alors a été un schéma sur lequel on continue de construire des choses comme l'idée d'une république, d'une science, d'une...
Tout à fait. En fait, cette séparation depuis 1905 dans l'histoire française et qui revient, puisque c'est bientôt les Olympiques à Paris, avec des gens des quatre coins du monde, des religions, des cultures bien différentes. C'était le premier principe, c'est qu'on peut diviser, dichotomiser, divorcer l'espace public et l'espace privé. Or, ce que l'histoire nous démontre, et l'actualité encore plus, qu'il s'agit là de ce que j'appelle une fausse dichotomie. L'être humain est un tout, un ensemble. Comme on disait autrefois en Suisse, l'être humain est entier. Or, cette idée qu'on va diviser, sectionner, séparer, c'est ce que j'appelle une fausse dichotomie. Le vouloir, l'élan de la laïcité, de la République, surtout depuis la fin du 19e siècle, je crois qu'il faut questionner le réalisme de séparer l'espace privé et l'espace public. Et je fais un parallèle avec le mouvement féministe ici au Canada, d'ailleurs. Jusqu'aux années 60, et même par la suite, il y avait des lois que dans l'espace public, on ne pouvait pas traiter des femmes d'une certaine façon. Mais chez soi, dans le privé, là, c'était autre chose. Mais pour beaucoup de femmes qui avaient l'air de bien aller dans l'espace public, le privé, chez elles, c'était l'enfer. Alors, c'est ça qui... C'est une fausse dichotomie et je l'ai appris des féministes. Quand vous croyez que gérer l'espace public va résoudre des questions de la condition féminine, je regrette. Regardez ce qui se passe en privé. Les féminicides sont une actualité aussi.
Très intéressant.
Oui. On retourne au Moyen-Orient peut-être. On a l'Iran donc, qui est une révolution et aussi maintenant un pouvoir islamique donc, qui est géré par l'ayatollah. On a Israël-Palestine. Pourquoi les religions sont si au centre en fait, de cette région-là? Pourquoi c'est si important de regarder le niveau religieux à ce niveau-là?
Mais les questions... Les religions, en théorie, répondent à ce que les philosophes appellent des questions ultimes. Quelle est la raison d'être de l'existence humaine? Pourquoi faire? Quel est le sens de la vie? Les religions tentent à répondre à ces questions-là. Or, ce sont des questions qui nous habitent. Et dans le modèle capitaliste de la consommation, faire de l'argent, dépenser de l'argent et en avoir toujours plus d'argent et de produits qu'on va acheter, en quelque sorte, c'est devenu la ligne directrice. Mais est-ce que ça répond au tréfond de la condition humaine? Est-ce que ça suffit? Certes, c'est nécessaire d'avoir les moyens économiques, monétaires, financiers pour le bien-être, mais ça ne nous donne pas une raison de vivre. Là, la vie devient qu'en train-train, c'est une routine, mettre au boulot dodo. Et en soi, ce n'est pas assez.
C'est ça qui expliquerait peut-être les niveaux de dépression ou de...
Mais ça explique... vous savez, dans le mouvement écologique, on parle de ce qui est durable. Il faut que les gens se rendent compte maintenant que les religions sont durables. Elles y sont toujours, et même au point de vue des évangéliques aux États-Unis, en pleine croissance. Ne parlons même pas du mouvement pentecôtiste en Amérique latine, où ça fait ravage. Donc ces gens-là qui n'ont presque rien, dans une pauvreté abjecte, mais pourquoi faire? Pourquoi vivre? Quelle est ma raison d'être? Les religions répondent à cette question. Quelle est ma raison d'être?
Est-ce que la politique l'organise?
L'organise les religions? Bonne question. Ce qu'on constate, que ce soit dans le cas... des colons zionistes bien armés en Cisjordanie, que ce soit Hamas ou le mouvement djihad ou l'État islamique, ou encore chez les zionistes chrétiens et les évangéliques blancs qui soutiennent bec et ongle Donald Trump, peu importe ce qu'il a fait dans la vie, c'est que là, on a instrumentalisé la religion. Ça, c'est autre chose. Donc la religion est une épée à deux tranchants. Oui, elle peut-être bien répondre à la raison d'être de la condition humaine, mais des fins stratèges peuvent l'instrumentaliser pour atteindre leurs propres fins, leurs propres buts, qui sont bien autres que la raison d'être de la condition humaine.
Donc c'est une lutte de pouvoir aussi, en fait.
Oui, oui, oui. Et je dois dire... Moi, je fais une distinction entre religion et spiritualité. Je suis également critique d'art et commissaire. Et je me suis rendu compte que quand j'entre dans l'atelier d'un artiste, c'est comme entrer dans le lieu très saint, dans un espace sacré. Et pourquoi? Parce que l'artiste communie avec soi-même, se questionne, se cherche. Comme disent les Premières Nations, l'artiste est en quête spirituelle par le moyen des arts. Donc ça, c'est très très valable. Mais pour moi, ce qui démarque les religions, au contraire de la spiritualité, qui correspondent aux rêves, aux visions, aux songes, aux désirs les plus profonds et à la réalisation de ce qui nous est le plus cher. Pour moi, une religion a quelques paramètres. D'abord, l'autorité. Il y a toujours des autorités dans les religions. Deuxièmement, des lois, des règles. Troisièmement, il y a une hiérarchie qui est établie. Et donc, quand on regarde... Et en dernier, ce qui explique l'importance de la Torah chez les Juifs ou du Coran chez les musulmans ou la Bible chez les chrétiens, il y a dans chaque religion dogme et doctrine. Ça, c'est bien autre chose que la spiritualité. Donc, je fais une distinction nette et claire entre religion et spiritualité. Et les religions, on peut les instrumentaliser. Au nom de la spiritualité, il y a bien des charlatans, des fraudeurs, des gourous. Moi, je les ai vus, d'ailleurs, je les ai vus sur le campus de l'Université de Californie à Berkeley. Au nom de la transcendance, au nom de la spiritualité la plus profonde, au nom de la guérison de la condition humaine, suivez-moi. Et toujours, suivre voulait dire se donner, donner son argent. Donc, et les évangéliques l'ont très bien compris. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse? Les télé-évangélistes, qui est devenu un phénomène.
C'est-à-dire qu'à la télévision ou...
Oui, ah oui, mais eux, ils ont des millions de partisans. D'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, vous regardez la télévision de câble, vous allez voir littéralement 100 canaux et plus. Et ce sont des télé-évangélistes qui, eux, ont compris, si vous vous présentez comme un genre de chef spirituel, de gourou, vous avez la clé de la connaissance qui est ésotérique, que personne ne comprend, mais moi je comprends la Bible. Et ça, je fais le lien avec les zionistes chrétiens. Quel est le principe opérateur du zionisme chrétien chez les évangéliques? La prophétie. C'est que depuis 1948, Israël, sa naissance, c'est la réalisation des prophéties bibliques. Donc préparez-vous pour l'Apocalypse, pour la fin des temps. Donc la prophétie devient vraiment tout un pan d'idées qui attirent les gens. Chez les zionistes chrétiens, ils sont tellement convaincus qu'on est au seuil de la fin des temps, de l'Apocalypse, de l'Armageddon. Et pour eux, ce qui se passe entre Israël et Hamas, c'est les prémices de l'Armageddon. Donc, dans leur maison, ils ont en storage assez de nourriture pour des mois et des mois. Parce que c'est... Et c'est, ça m'a rappelé quand j'étais tout jeune avec la menace nucléaire. Il fallait avoir un abri contre une attaque nucléaire. Il fallait avoir assez de nourriture. C'est encore cette mentalité de la fin des temps. Ce qu'on appelle en théologie eschatologique. On est dans les derniers jours. Donc, qu'est-ce qui devient important à ce moment-là? Ce que j'appelle la tyrannie de l'urgent.
C'est ça, c'est pas... Ouais, oui, c'est très intéressant, toutes les parallèles, parce que, justement, et notamment dans le cadre des sionistes chrétiens, est-ce que la chrétienté, c'est pas l'amour? Et pourquoi ne pas viser l'amour? Et donc, pourquoi soutenir... ou pas un conflit? Puis est-ce que l'Israël de ce 21e siècle, c'est l'Israël qu'on veut dans la Bible, dans la Torah?
Waouh, vous avez de bonnes questions et des questions profondes. Alors, pour répondre à la question de l'amour, je me souviens, parce que j'ai vécu en Algérie, à Oran, là où la ville natale d'Albert Camus, d'où d'ailleurs son livre La Peste, parce que vous, si vous y allez, vous allez voir beaucoup de rats. Donc, il y a un monsieur à Oran qui m'a posé la question, puisque j'étais là avec beaucoup d'Américains, de Britanniques et d'autres. Et il a dit, vous savez, professeur Cornette, il y a quelque chose, il y a un mot dans votre religion qui ne m'est pas familier. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire en tant que musulman. Et c'est le mot amour. C'était très, très intéressant. Et ça m'a révélé, en tant que spécialiste en sciences des religions, quelle est la pierre angulaire de quelques religions, monothéistes d'ailleurs, et de quelques mouvements actuels. C'est la loi. En grec, on appelle ça nomos. Donc, je les appelle des religions nomistiques, basées sur la loi. Certes, la loi divine. Or, dans le cas du judaïsme, c'est la Torah. Et la Torah, littéralement, c'est la loi de Dieu. Dans le cas de l'islam, le Coran, c'est la loi divine. D'où l'explication pourquoi il y a la loi coranique, ou encore tellement, c'est de véritables trésors, la loi judaïque est le sujet de tellement d'interprétations, d'où l'importance des rabbins et d'autres. Or, chez les chrétiens, surtout quand on se fie au Nouveau Testament, on parle dans les épîtres pauliniens, les épîtres qu'on attribue à Paul, on parle de la loi de l'amour. Donc, c'est une des raisons que, selon le récit du Nouveau Testament, qu'on a crucifié Jésus. Parce qu'au lieu de promulguer la loi ancienne, lui présentait une nouvelle loi, non pas basée sur, là on va suivre à la lettre, on va suivre l'amour. Qu'est-ce qui manifeste, qu'est-ce qui met en action, qu'est-ce qui réalise l'amour dans les relations humaines? Or, il y a quelque chose de très très intéressant dans les mouvements des protestants et des évangéliques radicaux. Pour revenir aux premiers pèlerins qui ont quitté la Grande-Bretagne et qui ont fondé les États-Unis dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, ces gens-là, tout comme Oliver Cromwell, je tiens à souligner, Oliver Cromwell, au contraire de la plupart des chefs de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, Oliver Cromwell valorisait les Juifs. Les Juifs étaient toujours persécutés dans l'histoire d'Europe. Des pogroms, ça ne date pas du 7 octobre 2023, mais c'est la raison que ça résonne si profondément chez les Juifs et chez les Israéliens. Les pogroms, ça faisait partie intégrante de la société médiévale d'Europe. Au contraire, Oliver Cromwell, il valorisait les Juifs parce qu'il dit « Notre vision comme chrétien, c'est de devenir comme les Juifs de l'Ancien Testament. » Donc, là, il faisait valoir non seulement le Nouveau Testament, qui est vraiment le paradigme du christianisme, mais il valorisait les écritures hébraïques, qu'on appelle les chrétiens l'Ancien Testament. Donc il dit, il faut qu'on établisse une société basée sur la loi divine. Et ce n'est pas une coïncidence que là, l'étude de l'hébreu devenait une discipline très importante dans les études bibliques. On disait, mais si on ne comprend pas l'Ancien Testament, on ne va pas comprendre trois quarts de la Bible. Parce que le Nouveau Testament, c'est mince. Alors, quand vous avez recours aux écritures hébraïques, il y a une tendance de transformer cette religion qu'on appelle le christianisme en loi. D'où, par exemple, le droit canonique chez les catholiques. Et si vous regardez ce qui se passe chez les élus des États-Unis, vous avez, je vous donne le sénateur Ted Cruz de mon état natif, le Texas. Il faut garder en tête, ce sont des gens qui ont fait des études poussées dans les meilleures universités en droit, c'est le cas de Ted Cruz. Mais pourquoi est-ce qu'il est entré en politique ? La loi de Dieu, je vais la traduire en loi du pays. Ça va devenir la loi de l'État du Texas, ça va devenir la loi des États-Unis sur le plan aussi bien fédéral. Et ça explique toute cette poussée pour annuler le droit à l'avortement. Et les zionistes chrétiens, c'est exactement leur vision. Nous, on veut que la loi divine régisse non seulement notre Église, non seulement nos vies personnelles, l'espace privé, mais que la loi de Dieu soit là, au cœur de l'espace public, et que qu'elle soit le fondement même de la société américaine.
Donc c'est l'idée de, dans la mesure où la seule loi qui prévaut, c'est la loi divine, à ce moment-là, il faut l'organiser à travers la société, c'est la seule manière qui a un ordre logique.
Et c'est pour ça qu'ils insistent et de légiférer dans le sens de la Bible. Figurez-vous, vous avez des sénateurs, vous avez des représentants. Nous, on veut promulguer des lois, on veut légiférer pour réaliser ce qui est écrit là dans les Écritures hébraïques. Ou là, ce qui est... Alors, là, vous comprenez leur regard envers les couples du même genre, du même sexe, le regard envers l'avortement, et j'en passe. Parce que pour eux, ça ne suffit pas de prêcher la Bible chaque dimanche à l'église. Ce qu'on prêche le dimanche à l'église, ça doit être la loi lundi matin, au travail.
C'est dogmatique, en fait.
Tout à fait. Et comment?
C'est fascinant, j'en prendrai encore...
Oui, t'es fasciné.
Mais c'est comme une illumination un peu, là. On va fonder la foi.
on arrive à la fin de l'émission. Auriez-vous peut-être une recommandation artistique ou culturelle? Je sais que ça vous tient à cœur de part...
Merci, parce que j'ai assisté jeudi dernier, donc il y a une semaine, au vernissage d'une exposition, et le président d'honneur était nul autre que Raymond Chrétien, neveu du Premier ministre du Canada, Jean Chrétien, mais qui est quelqu'un en soi de très très intéressant. Raymond Chrétien était l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, et d'ailleurs j'ai fait un atelier dialogique avec son prédécesseur, le général Jean de Chastelain, qui était également l'ambassadeur du Canada aux États-Unis. Donc Raymond Chrétien était également l'ambassadeur du Canada à la France, l'ambassadeur du Canada au Mexique, l'ambassadeur du Canada à la Belgique, et la Belgique c'est la plaque tournante, n'est-ce pas, pour l'OTAN, l'Union Européenne. Donc des positions clés. Il était le président d'honneur d'une exposition au Centre Africa. Et c'est l'artiste qui est là sur la rue Saint-Hubert. L'entrée est libre, c'est ouvert au grand public. Et c'est l'artiste Gabriel Landry qui invite le grand public à découvrir sa vision du vivre ensemble et de la paix entre les êtres humains, et à quel point chaque être humain est sacré.
Très intéressant. Une exposition donc au Centre Africa peut voir...
Au Centre Africa, sur la rue Saint-Hubert.
Juste à côté
du métro. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi.
OK. on peut la voir dans les prochaines semaines, se présenter quand on veut.
Il est en cours actuellement.
C'est parfait. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, une dernière belle parole pour nous?
C'est vraiment le mot de la fin ou c'est...
C'est un long mot de la fin.
OK, il reste un petit 5 minutes peut-être?
Il reste un petit 5 minutes.
Moi, j'ai une question, M. Cornette. on parlait tantôt des pogroms, mais Pourquoi les Juifs ont été aussi persécutés dans l'histoire? J'ai resté 5 minutes, là, on s'entend. Là. Mais pourquoi ils étaient aussi persécutés? Parce que j'ai lu le cycle juif de Youri Zarazin qui disait que, justement, ils étaient très instruits, souvent jouaient un rôle de médiateur. Mais pourquoi ils étaient aussi persécutés? C'était quoi l'idée derrière?
Parce que, d'abord, tragiquement, dans l'histoire du christianisme, on associe les Juifs avec ceux qui ont tué le Christ. Donc, pour eux, dans la tradition chrétienne, historique, traditionnelle, c'était les assassins du Messie, du Fils de Dieu. Et ils étaient toujours contre-courant. Et vous savez, souvent, les religions, tout comme en politique, on veut que ça marche copie conforme. Mais les Juifs n'étaient jamais copie conforme au christianisme. Alors, quand vous insistez sur la copie conforme de la condition humaine, vous venez trahir toute la richesse de ce que c'est d'être humain. Et il faut valoriser à quel point on est des individus uniques. Mais les bureaucraties, les administrations, la politique et les religions et les autorités religieuses, à leurs yeux, il s'agit d'hérétiques ou d'infidèles. Et le regard envers les Juifs, historiquement, c'était celui-là. Et non seulement ils n'appartenaient pas à la bonne foi, à la vraie religion, mais c'était eux qui étaient à l'origine de la mort de Jésus.
Donc, s'il fallait un coupable, c'était eux.
Oui. Il y a un mot en théologie, déicide. Ils ont tué Dieu. C'est fort, ça.
Il n'y a pas de zone grise, là.
Non, c'est noir et blanc. Et vous êtes coupable. Selon la tradition et une certaine interprétation de la Bible, cette culpabilité va rester la leur jusqu'à la fin des temps. Ils seront toujours les damnés de la terre.
Du pourquoi qu'ils ont voulu avoir, en fait, un peuple sans terre, finalement, de dire, ben, on sera toujours persécutés, notre seule chance, c'est de retourner au peuple, au droit divin et à notre terre.
Et c'est d'autant plus intéressant que vous soulevez cela, puisque mademoiselle est de la France, qui est à l'origine du zionisme moderne. C'est Theodor Herzl, qui était un juif et qui, lui, était un journaliste germanique, mais il était là pour tout le jugement de Alfred Dreyfus, l'officier juif français qu'on a faussement accusé de trahison. Et une des raisons, sinon la principale, c'est qu'il était juif. Or, à la fin du 19e siècle, la fin des années 1800, la France était la capitale culturelle. On est dans le mouvement impressionniste, on est avec des grands musiciens français, alors Debussy et autres, et Camille Saint-Saëns, la France était vraiment un pôle d'attraction. Alors, Herzl s'est dit, mais si un juif officier français qui avait fait ses preuves n'est pas à l'abri de la persécution, qui donc, quel juif sera? Et là, on est au sommet de la civilisation occidentale et on fait le jugement et on l'a exilé, n'est-ce pas? C'était affreux ce qu'il a vécu. Or, là, on se rend compte, quand on dit dans la laïcité, dans une France séculière, que là, on évacue la religion de l'espace public, mais on n'a pas évacué le fait qu'il soit juif. Alors, c'est une fausse dichotomie. On l'a jugé en partie à cause de sa religion, du simple fait qu'il était juif, il pouvait être suspect.
Wow. Ça finit bien l'émission, je pense.
Une belle leçon d'histoire. Merci beaucoup, professeur Normand Cornette, d'être venu derrière notre micro. Un grand bravo pour tout ce que vous faites, non seulement pour les sciences de la religion, mais aussi dans le milieu culturel. Ouais. On espère vous recroiser à Montréal dans une exposition, une conférence ou autre.
Et on va certainement vous réinviter. En tout cas, on a votre contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Cornette. C'est Hélène, qu'est-ce qui met fin à notre saison?
Exact.
Encore une fois, merci à toi, Eric.
Merci à toi, Jeffrey.
Puis on va se retrouver, on ne sait pas quand, parce que là, tu pars sur une aventure, mais on espère te retrouver quand même la prochaine saison.
Oui, certain.
Tu n'es jamais bien loin, en fait.
Exact. Ouais.
Merci beaucoup.
Et merci à Eric à la régie. Oui. Je parle en connaissance de cause, sans qu'un bon technicien, ça ne peut pas se faire. Alors, il est notre partenaire qu'on n'entend pas.
Exactement.
C'est une bonne façon. C'est le partenaire qu'on n'entend pas, Eric. Écoute, bon été à tout le monde. Bonne fin d'émission. À bientôt.
À bientôt.